Rencontre avec Bruno Pénado, le 1er février 2007, la veille du vernissage de son exposition au FRAC des Pays de la Loire. Une exposition qui s'achèvera le 29 avril 2007. Elle est intitulée « Radicale buissonnance » et Bruno Pénado commence par nous commenter ce titre.
Donc cette exposition s'appelle « Radicale buissonnance », ce qui est un collage entre deux termes, un néologisme, « buissonnance », donc un mot que j'ai inventé à partir d'une notion que l'on applique désormais à l'histoire de l'humanité, l'évolution. Jusqu'à présent, on était sur des bases d'une conception qui un peu à la post-Darwin, du chaînon manquant, d'un groupe d'hominidés qui, soi-disant plus faible qu'un autre groupe, aurait disparu et remplacé par un groupe plus fort. Donc les Australopithèques y arrivent après les machins. Et depuis quelques années, on parle d'une évolution buissonnante, qui est une notion qui m'intéresse à plein de titres. Ce principe d'évolution buissonnante évoque la notion qu'en fin de compte, tel groupe d'hominidés vivant avec un autre groupe d'hominidés, en fin de compte, se serait fusionné par un principe de métissage ou de créolisation, comme ça, il aurait donné un autre groupe. En fin de compte, que l'évolution, contrairement à tous ces principes qu'on a, comme ça, de changement brutal, de choses qui auraient évolué, en fin de compte, tout doucement, plutôt comme donc une logique un peu comme ça, comme un buisson, quoi, un buissonnement. Donc voilà, donc c'est une notion qui m'intéressait énormément, et ça m'intéressait aussi de coller ça à ce terme de radical, qui est une notion qu'on remet souvent en jeu comme ça, et qui a à voir au niveau, enfin dans ses origines, avec la racine. Voilà, donc c'est deux principes comme ça, deux modes de croissance qui sont appliqués dans ce titre-là, et qui sont un peu deux principes comme ça, deux structures, deux modes de développement qui sont un peu contradictoires, paradoxales. Voilà, donc c'est une rencontre comme ça entre deux trucs.
Et donc la buissonnance, c'est une sorte de parallèle au terme qu'on retrouve tout le temps à propos de ton travail sur la créolisation.
Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est donc un accompagnement par la paléontologie d'idées que j'essaie de défendre par mon travail. Ouais.
L'idée esthétique.
Ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, donc une idée à la fois morale et à la fois une organisation du monde. Mes expositions et mes pièces souvent avec plein de considérations à plein de degrés de lecture, plein de niveaux, et l'un des premiers justement qui m'intéressait déjà sont un peu les sautes, comme tu parlais de sonorité tout à l'heure, c'est un peu une sonorité qui m'amusait avec Nantes et buissonnante, et l'une des pièces que j'ai utilisées d'ailleurs pour le carton, qui est l'une des pièces qui est presque centrale mais en fin de compte qui est décentrée, évoque, ouais, donc dont le titre est sans titre, Pump Up the Rhythm, évoque une notion effectivement aussi comme ça de sonorité, donc Pump Up the Rhythm qui est enfler le rythme, hein, donc comme il y a eu toute une histoire dans cette salle du FRAC par rapport à l'écho qui arrive à bien s'enfler, ouais, parce qu'il est très, il y a une espèce d'insonorisation comme ça complètement un peu passé à côté, donc tout le moindre bruit prend vachement de résonance dans cette salle, et ce jeu de mots entre pump up the rhythm, le rythme, et le rhizome, donc c'est une sorte de pyramide sur laquelle est posée une racine, donc un rhizome comme une racine d'iris, ou une racine qui est posée à l'envers avec tout le système réticulaire qui se trouve vers le ciel. cette racine est faite à partir d'une plaque d'aluminium peinte, époxy, cuite au four, donc une technique comme ça très industrielle, découpée, c'est un dessin qui est découpé au jet d'eau à très haute pression, et qui fonctionne un peu comme une sorte de girouette, quoi, comme quelque chose qui prendrait le vent, et qui pourrait tourner comme ça selon les humeurs de l'air du temps, quoi. Et ce principe de girouette donc se pose sur cette structure pyramidale qui est une forme qu'on connaît tous, qui évoque énormément de choses pour plein de gens. Forme qu'on trouve donc sur le billet de $1, là, une espèce de pyramide, qui évoque aussi tous les temples Maya ou Aztèque d'Amérique du Sud, la pyramide des Égyptiens. Donc voilà, c'est tout un objet comme ça qui est extrêmement chargé, comme souvent ce qui peut m'intéresser, des objets qui sont un peu comme des relais qui au travers du temps, au passage du temps, s'enflent de nouveaux sens et continuent comme ça, comme une boule de neige, hein, qui ferait une avalanche, quoi, et qui arriverait jusqu'à nous. En ayant traversé toutes ces époques et en étant chargé d'une infinité de sens, et avec tellement de sens qu'on ne sait même plus lequel est le prédominant. Si ce n'est que la pyramide évoque quand même toujours des idées de hiérarchisation ou de lien, de passage. Donc chez les Égyptiens, de passage comme ça entre le monde des vivants et le monde des morts. Dans d'autres structures, comme des structures de société. De société libérale, la pyramide évoque justement cette hiérarchisation entre le commun des mortels et la upper class. Donc voilà, plein de pour les diététiciens, ce serait la pyramide des lipides. Enfin voilà, il y a tout un truc comme ça qui essaie en tout cas de se distinguer de ce qui est en bas. Et mon travail, l'un des choses qui m'intéresse dans mon travail, c'est toujours prendre en considération ce qui est devant moi, donc ce qui est en bas, ce qui est là autour de nous, et de le distinguer aussi, mais pas forcément en l'élevant ou en l'éloignant de nous, mais plutôt en le prenant en considération et en le rapprochant et en le mettant en réflexion. Donc cet acte de mettre en réflexion les choses passe souvent par le fait de mettre les choses en miroir, donc de les regarder à nouveau sous un autre angle, c'est-à-dire en les mettant en bascule, en les mettant comme ça en reflet. Et cette pyramide elle-même est aussi mise en reflet puisqu'elle est faite donc de miroirs de verre qui fait miroir par en étant peint dessous d'une peinture noire, et ce verre est cassé. Et le fait de casser ce verre fait apparaître comme des veines. Donc du coup, ce verre, qui est un verre de fenêtre, un verre de sécurite, un verre stadipe, prend toute une profondeur, en le cassant, prend une profondeur que normalement le verre essaie de d'éviter. C'est-à-dire que le verre, c'est vraiment un matériau qui essaie d'être le plus invisible possible. Donc c'est une matière qui est faite pour ne pas exister. Une matière qui est fait pour disparaître, immatériel justement. Et donc là, moi, je viens rendre cette matière immatérielle matière en cassant la surface, en faisant apparaître tout un dessin comme ça, un dessin de réseau, un maillage de signes qui évoque du coup du marbre. Ça ressemble de très loin et de très près même. Ça ressemble de loin à du marbre.
Et où on retrouve à travers le réseau de cassures, de fêlures, etc., quelque chose qui renvoie formellement aussi aux
racines,
de racines, rhizomes, voilà. Du haut.
Exactement, voilà, ça rejoue ça, et ça rejoue aussi toute cette histoire justement de la pyramide, et toute cette histoire du radical dont je parlais, qui est l'un des deux pendants là, travaillés par cette exposition. Cette histoire du radical, qui est cette histoire de la généalogie ou de la veine, c'est-à-dire du sang qui coule dans les veines, de la généalogie ou de l'héritage. C'est-à-dire on vit dans une société qui s'est toujours organisée sur des logiques comme ça, binaires, qui depuis l'Ancien Testament, donc machin fils de machin, qui est lui-même fils de machin, qui est lui-même fils de machin, qui du coup, parce qu'il est fils de machin, a le droit à la parole, parce que justement, on lui a transmis le message, quoi. Et
Le pouvoir généalogique.
Voilà, c'est ça. Et le pouvoir n'est transmis justement que par cette logique-là, cette logique de verticale, quoi, hein, de la verticalité. Et cette logique de la verticalité s'origine dans des structures donc qui sont soit pyramidales ou des structures qu'on appelle arborescentes. Donc toujours en référence comme ça à cette logique de l'arbre, l'arbre généalogique, l'arbre comme développement du livre, les chapitres qui se développent comme ça. Donc voilà, cette histoire du radical dont je parlais. Et donc qui est aussi une histoire du sang, quoi, hein. Et là, ce qui me fait rire justement dans cette pyramide, c'est de faire apparaître des veines, donc du coup cette histoire justement du sang, quoi, hein, qui est normalement une histoire de profondeur, de la faire apparaître justement à la surface du verre.
Est-ce que par rapport aux références, si on continue à charger la pièce, mm-hmm. par exemple, quand je suis arrivée devant, moi, ce qui m'a frappé, c'est la similitude avec un miroir gris de Richter, mm-hmm. où tu as cette même ce même reflet du spectateur, mmh, très mmh. fort, mmh. et puis en même temps l'impact violent, mmh. Parce que enfin je sais pas si toi t'as géré cette dimension là, mais
complètement,
c'est très,
tu crois
très violent.
Pas, tu crois pas si bien dire, puisque derrière cette pyramide se trouvent trois monochromes qui font plus ou moins directement référence à ces Graue Malerei de Richter, qui sont donc des peintures monochromes grises qui sont peintes sous verre. Et qui du coup font miroir, hein, font des miroirs. Et donc là, j'ai trois objets comme ça qui sont des grands tableaux, comme des grands formats, 1,70 m de large par 2,20 m de haut. Donc des grands espaces comme ça, un peu comme des baies vitrées ou des tableaux américains. Donc très format très muséal comme ça, qui sont faits avec ce même verre Stadip, dans lequel je viens mettre un coup qui dessine du coup un réseau, comme un itinéraire post-situationniste, un truc comme ça, quoi, un dessin qui apparaît, donc qui casse, qui voilà, c'est le même principe, quoi, qui casse cette immatérialité du verre, cette immatérialité de l'objet, et qui ramène donc une profondeur dans cette logique de la surface, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un truc qui m'intéresse toujours, c'est de parler du monde, de parler de ce qui nous entoure, de l'air du temps, de toutes ces choses qui font notre monde contemporain, la contemporanéité, de l'évoquer toujours par la surface, par la peau. Et donc, ce sont des signes, des objets, des histoires que je m'empare, dont je m'empare par le, dont j'attrape simplement le reflet, quoi. Un peu comme un photographe qui vient justement à sortir des peaux comme ça du monde, quoi, hein. Et tous ces jeux de surface, tous ces jeux de reflets sont toujours mis dans des logiques donc des mises en abîme comme ça, des mises en perspective qui, en fin de compte, essaient de négocier ce qu'il y a derrière. Donc parler de la profondeur des choses avec la surface. Parler du fond des choses avec simplement leur peau, quoi. Voilà, c'est toujours des petits principes, des petits mises comme ça en mouvement qui m'intéressent. Pareil, quand on rentre dans la salle, il va y avoir une pièce qui fonctionne un peu comme ces tourniquets qu'on a à l'entrée des immeubles américains. Donc c'est ces espèces de portes tournantes ou des aéroports là comme ça qui sont un peu comme des pavillons d'anagramme, c'est-à-dire que tout en passant dedans, un peu comme des camemberts là qui tournent, tout en passant dedans, on voit à la fois ce qu'il y a de l'autre côté et le reflet de ce qu'il y a derrière, quoi. Et on est emmené comme ça dans un mouvement circulaire, on passe de l'intérieur à l'extérieur. Donc se trouve à l'intérieur, à l'entrée de l'espace d'exposition, un gros disque qui est en fin de compte une boule à facettes, qui serait une boule à facettes vue dans un miroir, donc un reflet de ce qui met en reflet. Donc c'est une boule à facettes en 2D, donc un disque, un plateau comme ça, entièrement recouvert de petits miroirs de boule à facettes, et qui dessine l'illusion d'un volume. Et ces petits miroirs, cette petite boule à facettes plate, tourne légèrement sur elle-même et fait comme un mouvement comme ça justement d'entrée entre qui reflète donc l'entrée de l'exposition, donc ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dehors, l'extérieur à l'exposition et l'exposition elle-même, et qui la reflète un peu sur un principe de rébus comme ça, qui la reflète en étant complètement éclaté. Donc c'est une vision kaléidoscopique d'une image. Donc c'est une vision d'une image qui renvoie à plein d'autres images, quoi. Voilà, donc ça fait un espèce de mouvement comme ça. Il y a un truc aussi qui est très important par rapport à l'exposition, c'est l'éclairage qui est pris en considération. Là, on parle, enfin, cette pièce, le projet architectural du FRAC était très très investi par cette histoire de la lumière zénitale, parce qu'il y a ces quatre verrières là comme ça qui essaient de ramener dans l'espace d'exposition une lumière dite du jour, quoi, la lumière du jour. Et qui me semble être, avec le son, l'un des écueils peut-être de cette salle, justement, puisque cette lumière n'est pas franchement suffisamment présente pour exister réellement, quoi. Donc du coup, il y a toujours besoin d'autres types d'éclairage qui font une sorte d'éclairage un peu jaunâtre comme ça, qui est un petit peu compliqué.
Donc ce qui m'a obturé d'ailleurs.
Voilà, donc du coup, ce qui m'a fait rire là-dedans, c'est de mettre une lumière du jour complètement artificielle, puisque j'ai repris donc des spots, enfin j'ai utilisé des gros projecteurs qu'on utilise pour faire la fausse lumière du jour dans les aquariums, par exemple à l'Océanopolis ou des choses comme ça, où les otaries, les phoques vont vivre dans un endroit complètement fermé et on leur met de la fausse lumière du jour. Donc là, cette fausse lumière, c'est de la lumière du jour mais qui est complètement artificielle, qui est mise dans les alcôves et qui fait un éclair donc très blanc, quoi, très radical justement comme ça, très 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 froid. Chose que beaucoup de lieux d'exposition redoutent souvent, donc en ayant un éclairage, souvent les éclairages de lieux d'exposition sont plutôt doux, comme ça, une lumière qui enrobe, qui enjolive. Et là, donc, c'est une lumière assez franche, assez directe, et qui est accompagnée, donc qui, du coup, l'éclairage de l'expo devient une œuvre en soi, quoi, une réflexion sur le bâtiment, une réflexion sur l'exposition. Et cette pièce-là donc s'appelle Tourbillon, et accompagnée de quatre machines à brouillard qui sont posées chacune dans une verrière. Donc il y a quatre alcôves au plafond comme ça, qui font comme quatre barres lumineuses, et dans chacune de ces alcôves se trouve donc une machine à brouillard qui, sur une temporalité qui est du coup celle de l'exposition, quoi, comme si c'était une machine autonome, viennent balancer un jet de brouillard toutes les 5 minutes. Donc l'alcove 1 fait pich, la 2, pich, la 3, pich, la 4. Donc comme une espèce de... il s'appelle tourbillon, donc comme une espèce d'horloge interne, quoi, comme si l'exposition avait son propre temps. Et là aussi, ce qui m'intéressait, c'était donc déjà ce jeu avec le tourbillon qui était... le tourbillon était le terme, le nom du mécanisme de ce qui était l'excellence horlogère suisse. Donc les tourbillons étaient les mécanismes les plus stables qui permettaient notamment aux marins de faire le tour du monde justement et de pouvoir avoir toujours l'heure juste pour pouvoir se positionner. Donc c'était un repère très fort pour les explorateurs. C'était le tourbillon était justement le nom du mécanisme qui permettait à ces machines de ne pas tomber en rade, quoi. Et on a tous cette idée que plus on passe de temps sur un objet, mieux on perçoit, plus on est éclairé. Et donc par rapport à ce temps de l'exposition, ce sera complètement contraire, c'est-à-dire que l'éclairage, là, plus on passe de temps dans l'exposition, plus l'exposition est floue, plus on est dans le brouillard, puisque plus on passe de temps, plus le brouillard s'épaissit, quoi.
S'accumule
et s'épaissit. Donc ça veut dire que l'exposition va, contrairement à cette notion
de révélation
du temps passé dans l'espace.
Révélation.
Voilà, là il y a un système qui va à l'inverse, c'est-à-dire que
tu embrumes le spectateur.
Voilà, plus on reste dans, plus on essaie d'être éclairé par cette exposition, et en y passant du temps, moins on sera éclairé, plus la lumière sera diffuse et plus le brouillard s'épaissira.
Et en même temps, ça va te matérialiser ta lumière.
Ça va complètement matérialiser la lumière, et c'est aussi, j'en parlais tout à l'heure là, justement avec un ami, là, c'est aussi cette idée que tous ces objets qui sont positionnés dans l'espace comme ça, qui a priori n'ont pas de lien entre eux, si ce n'est tous les liens que moi j'ai mis, puisque toutes ces pièces sont un peu comme des millefeuilles, elles sont travaillées à plein de degrés de lecture, donc on peut y voir des renvois, mais en tout cas il y a un jeu déjà matériel très simple, c'est que ce sont que des matières réfléchissantes. Donc ce sont que des matières qui renvoient déjà à ce qu'on a devant soi. Donc soi-même, soit une autre pièce. C'est-à-dire que les pièces peuvent se voir les unes dans les autres, quoi. Un peu comme un jeu comme ça de d'écho visuel, quoi. Hein,
une galerie des miroirs,
comme ça, les pièces se renvoient. Il y a des formes qu'on retrouve dans des pièces, des couleurs qui se trouvent dans telle pièce et qui se retrouvent dans une autre en filigrane. Enfin, des jeux comme ça de renvoi de signes, de couleurs. Et donc, ce brouillard va aussi matérialiser cette espèce de vide qui est entre les pièces, qui du coup, ce vide-là devient un lien, quoi. C'est-à-dire que ce brouillard serait un peu soit cette chose dont on parle et qu'on n'arrive pas à définir généralement, qui est l'air du temps. Et l'air du temps est quelque chose qui est énormément travaillé dans cette exposition, puisque tous les signes et tous ces objets qui sont dans cette exposition sont des objets que j'ai choisis malgré moi. C'est-à-dire que c'est pas vraiment des objets que j'ai choisis, c'est des objets qui m'ont été apportés un peu comme cette notion des naufrageurs, là, les gens qui habitent sur les côtes et qui ramassent tous les bois flottés, quoi. Donc, c'est-à-dire que moi, je me situe un peu là-dedans, quoi, dans cette position-là. C'est-à-dire que tous les signes qui sont là sont des signes que je n'ai pas inventés, sont des signes que j'ai récupérés, un peu comme un naufrageur récupère des bouts de bois flottés sur la grève, quoi. Donc, c'est des signes qui m'arrivent par des magazines, par Internet, par machin, par truc, par ça, et qui sont des signes qui justement sont les signes qui sont dits l'air du temps, quoi. Voilà. Donc, et cette exposition, comme d'autres que je viens faire souvent, s'amuse à mettre en réflexion, à mettre en perspective les signes de notre contemporanéité, c'est-à-dire l'air du temps. Qu'est-ce qui fait que subitement tous les artistes fassent de l'art minimal et qu'on voit dans toutes les galeries des pièces qui se ressemblent toutes? Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, subitement, il y ait des gens qui se mettent à être intéressés par la mystique, que David Chincott fasse un carton au cinéma? Qu'est-ce qui fait que des signes, à un moment donné, deviennent les signes forts?
Surnagent.
Ouais, apparaissent comme ça. Et du coup, soit par cette espèce de rapidité de l'information, de la communication, que soit des signes qui sont des signes phares, quoi. Et cette exposition vient du coup interroger ces signes-là. Pourquoi subitement on voit apparaître énormément d'art comme ça qui serait très influencé par l'art concret, par le formalisme, par la peinture géométrique? Qu'est-ce qui fait que dans beaucoup de galeries il y ait des pièces qui soient d'une esthétique minimale qui réapparaissent? Voilà. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, ces systèmes des valeurs, quoi? Qu'au début du XXe siècle, les bourgeois étaient gras et leur intérieur était surchargé de tableaux, et que les pauvres avaient des intérieurs dénudés en étant maigres, et qu'à l'heure actuelle, les bourgeois sont maigres avec des intérieurs dénudés, et les pauvres sont gros avec des intérieurs surchargés de signes. Donc voilà, qu'est-ce qui fait nos valeurs, nos systèmes de valeurs, et malgré tout, justement, qu'est-ce qui fait que, alors qu'on réfléchit tout, alors qu'on pense tout, que ces systèmes-là sont dans un espèce de reprogrammation perpétuelle, quoi. Que ça ne, après 10 ans de maximalisme, on revient du minimalisme. Après 10 ans de pas de def, on revient au pantalon cigarette. Et après 10 ans de pantalon cigarette, on revient au pantalon pas de def. Et voilà, quoi. Cette espèce de machinerie qui fait notre libre arbitre, quoi. Qui, en fin de compte, n'est pas si libre que ça. Donc cette chose qu'il y a dans l'air, cette espèce de brouillard, cette chose impalpable qui, malgré tout, impressionne toutes les mentalités et impressionne tous les imaginaires. Donc voilà, donc cette exposition, comme d'autres que j'essaie de mettre en place, s'intéresse à ces mouvements-là, quoi, à ces mouvements imperceptibles, cette espèce de tectonique. Les pièces n'ont pas de titre. C'est-à-dire que le premier degré de lecture de ces pièces est un espace de neutralité, un espace vacant, une absence de sens. Par contre, elles ont un sous-titre. Donc le fait de laisser les pièces en titre, c'est aussi le fait de laisser la possibilité, vu que je parlais de pièces millefeuilles, quoi, multiplies comme ça, c'est le fait aussi de considérer que le premier degré de lecture, la manière dont on va appréhender une pièce, est complètement ouvert, quoi. C'est des, elles sont à multi-prix, ces pièces. Et chaque spectateur peut se construire son propre récit, sa propre histoire. Donc c'est le fait de laisser aussi volontairement la chose ouverte, quoi. Ouverte à plein de récits, quoi. Puisque là, on parle des pièces, on parle de ma volonté, de mon désir de nourrir ces pièces, mais ces pièces sont données sans ma parole, sont données, elles existent, sont des objets, quoi. C'est pas des, sont pas des récits. Donc ces pièces fonctionnent sur ce principe de porte ouverte, quoi.
Autonomie ouverte.
Voilà. À part que, vu que je n'aime pas les systèmes et vu que je suis assez, que je m'amuse avec tout ça, elles ont quand même un sous-titre, donc, qui est soit une fausse piste, soit une vraie piste. Donc après, ça, chacun de se faire sa place là-dedans, quoi. En tout cas, ces pièces-là, donc c'est qui sont en gros hein, des parallélépipèdes en aluminium laqué avec des peintures très brillantes, comme des lacs automobiles, comme des carrosseries de voitures, mais qui évoquent vraiment un volume extrêmement simple, quoi. Un rectangle, mais dont un des angles du rectangle est complètement cassé. Donc c'est comme si embouti, comme s'il y avait eu un accident, un peu un crash à la Cronenberg, comme ça, un espèce de dérapage, quoi, de d'accident. Et du coup, toute la matérialité de cet objet, qui justement est un objet a priori extrêmement fluide, quoi, quelque chose qui glisse comme ça, qui amène une sorte de fascination tellement justement ça glisse. Cet objet, cet objet qui glisse, et ben a tellement glissé qu'il a dérapé, qu'il a rencontré un obstacle. Et cet obstacle ramène, enfin voilà, à toute son histoire, quoi. Et donc ces pièces s'appellent sans titre California Game Over, plus après plein d'histoires par rapport à la couleur de chacune, qui sont donc voilà, ils sont chacun un tour en cool, ce sous-titre California Game Over, et qui en fin de compte aussi donc ces pièces font extrêmement référence à l'art minimal, et notamment à un des pans de l'art minimal qui serait l'art minimal californien, donc à des gens comme McCracken, tout ça. Et il se trouve que rien ne vient forcément par hasard, et au moment où ces artistes travaillaient l'art minimal, on peut remarquer qu'il y avait toute un mouvement très fort en Californie, qui existe toujours d'ailleurs, qui était un mouvement de customisation des voitures, et qui, contrairement à l'idée qu'on a du custom actuellement en Europe, qui est en fin de compte le fait de distinguer un objet manufacturé, donc un objet en série, donc une Ford Escort, une voiture lambda, quoi, une voiture assez générique, de la distinguer avec des objets qui eux-mêmes sont fabriqués en série, mais qui sont fabriqués en série pour être distinctifs comme ça. Donc c'est un truc un peu paradoxal, c'est-à-dire de vouloir rendre un objet soi-disant unique à son propre goût avec des objets qui sont faits en chaîne. Donc il y a un truc un peu absurde là-dedans. Et donc le custom californien, lui, fonctionne complètement l'opposé, puisque ça s'appliquait surtout sur des vieilles voitures qui étaient modernisées en ajoutant donc des lignes très très futuristes comme ça, des lignes très allongées et un effet d'impact minimal, quoi, minimum, quoi. Tous les signes extérieurs de la voiture d'époque sont complètement effacés. Donc c'est un peu comme si on mettait une touche sur Photoshop, une touche un masque comme ça un peu flouté sur la voiture. Donc toutes les lignes sont redessinées et souvent ces voitures sont peintes en noir mat. Donc un espèce d'objet comme ça qui devient très
absorbant.
Ouais, très absorbant, voilà, très mat comme ça, quoi. Et ce qui m'intéressait aussi par rapport à cette chose de la voiture et ce rapport à l'art minimal et la voiture, c'est qu'une voiture qui va très vite, ça devient qu'une ligne, quoi. Donc une espèce de réduction comme ça d'un signe, quoi. Ça plus simple à para, quoi, une ligne comme ça. Et à ce moment-là, donc il y a tout un tas de films, La Fureur de Vivre, plein d'événements comme ça qui sont très intéressés par la rapidité, par l'accélération. C'est Picabia aussi qui faisait tout son Paris-Nice comme ça en voiture à 220 km/h comme ça toute la nuit d'un trait, quoi. Voilà, on parle d'un voyage rapide justement comme un trait, quoi. Et au même moment, donc il y a cette fascination pour la vitesse et pour le trait et pour la réduction comme ça de la vitesse, on invente l'accident, quoi, la rencontre. Donc c'est à ce moment-là que les stars et tout le glamour d'Hollywood se crash contre les arbres, s'explose dans les falaises de la Riviera. Donc il y a toute cet accompagnement entre les deux, quoi, vraiment, ce balancier là, entre les deux mouvements, quoi. Donc, voilà, donc c'est quelque chose que ces pièces mettent un peu en place, quoi, en tout cas travaillent un petit peu. Ouais.
Alors en face, une nouvelle pièce qui respire aussi lumineusement.
Ouais, donc ça c'est une pièce effectivement qui est positionnée dans le fond de l'expo, dans le fond de la salle, qui a une découpe numérique dans de l'aluminium laqué. Donc là encore un truc qui est très brillant comme ça, et qui a au dos tout un système d'éclairage de tubes néon qui sont mis sur une temporisation et qui, un peu comme une ancienne de bar de fin de quartier, comme ça, debout de la ville, fonctionne donc un peu comme un espèce de phare, comme ça, de repère, hein, au loin, quoi. Et souvent, ces bars ont une espèce de dysfonctionnement très gracieux, comme ça, c'est-à-dire que l'enseigne, le néon marche pas très bien, donc c'est un truc qui clignote, quoi, et qui, du coup, apparaît, disparaît. Et dans cette apparition et dans cette disparition, mais souvent, il y a des trucs qui se passent, quoi. Donc souvent il y a des lettres qui manquent au mot, donc du coup le mot prend un autre sens. Enfin, il y a toujours des choses qui apparaissent comme ça dans ce dysfonctionnement, et c'est ça qui m'intéresse souvent, c'est ce point de rupture, le moment où les choses basculent entre une réalité et une autre, et ils peuvent emporter, donc peuvent amener soit de la poésie, soit, enfin, tout ce qu'on y veut, quoi. Et là effectivement, donc c'est une forme très simple, qui est une sorte de rond, quoi, comme un tondo, avec des trous dedans, et qui évoque, alors, à l'envie, soit un espèce de gros graffiti du A d'Anarchie, et à la fois le graffiti tellement mal fait, ou il est tellement épais, que du coup, les vides que dessinerait cette Anarchie-là forment comme un espèce de visage, une sorte de clown triste, quoi, comme à ce personnage de ce clown blanc, là, l'Auguste, qui est au cirque, hein, justement, le personnage du burlesque. Et la lumière qui monte et qui descend, qui déconne un petit peu, fait apparaître justement ces deux mouvements comme ça, ces deux images dans un mouvement d'aller-retour comme ça incessant. Donc un espèce de gros objet qui fait référence à la logique du chaos, ou à la le désir très fort d'appliquer le chaos à toutes les structures, qui serait ce graffiti d'Anarchie appliqué sur les murs à la va-vite comme ça. Et cette figure ancestrale comme ça du clown blanc. Et puis en plus c'est dans le fond de la salle là justement, où le brouillard est le plus épais, où il y a le moins de luminosité, donc c'est aussi une perspective comme ça même. Ouais.
À côté, donc il y aura ta pièce, la pièce réalisée pour l'expo Vuitton, c'est ça?
Voilà, donc une pièce qui s'appelle Speedy et qui est, comme son nom l'indique, une pièce qui tourne très lentement. Et donc c'est un peu une pièce qui joue sur l'imaginaire du trajet, quoi, du voyage. Donc c'est une sorte de sac posé sur un carrousel, un peu un manège comme ça, qui tourne très lentement, et duquel sortent une multitude de signes, une espèce de foisonnement baroque, quoi, une sorte de jungle originelle, avec des références à plein de cultures dites primitives, des signes comme ça qui jaillissent comme une sorte de grand puzzle en 3D, quoi, un enchevêtement de plaques d'aluminium découpées elles aussi au jet d'eau très haute pression comme ça, plein de signes récupérés à droite et à gauche qui s'en mêlent, une sorte de figure comme ça de l'emmêlement et aussi qui met en perspective toute cette histoire du voyage, du et tout ce mythe du voyage dans des cultures dites primitives. Donc toute cette fascination de l'exotisme et du pittoresque, tout cet imaginaire qui a toujours fait que les artistes étaient des gens qui partaient en voyage, qui allaient découvrir comme ça une sorte de vérité du monde, un peu ce fantasme un peu que Rousseau avait justement au siècle des Lumières, qui pensait que le sauvage était bon, quoi. Donc le vrai, la beauté, la vérité, se trouvait dans le dénuement et dans la culture l'altérité, quoi, une espèce de croyance comme ça que la vérité est ailleurs et que donc dans le voyage on va rencontrer cette chose-là, quoi. Et qui véhiculé par plein de mythologies comme ça arrive jusqu'au XXe siècle et continue comme ça toujours de créer l'imaginaire des explorateurs ou des gens même comme des designers comme les Eames qui partent en Inde faire des photos ou au Mexique comme ça qui dans ces cultures de tout ce pan de la modernité qui justement est encore fasciné par les cultures primitives. Il trouve que le vrai se trouve là. Donc il y a quelque chose que moi que je viens un peu mettre à mal aussi. Mettre à mal dans un désir de se dégager de l'exotisme, puisqu'un exotisme c'est une espèce de marque une espèce de marque portée comme ça, une espèce de truc de tatouage très fort qui fait que bah, qu'à l'heure actuelle un artiste africain et fabrique en série des sortes de masques complètement bidons à longueur de journée comme ça pour que les personnes emportent justement cette vérité d'une culture qui justement n'est plus là dedans, quoi. Donc il y a un très beau film comme ça de Jean Roux justement sur le ça s'appelle quand les statues meurent, je crois. Voilà, ça veut dire quand les masques meurent, enfin je sais plus comment quel est le titre, mais en quoi quand un masque rituel meurt
vidé de
par rapport à des pratiques cultuelles, et ben il devient une sculpture en Occident, quoi. Un espèce de mouvement comme ça, donc une espèce de recyclage comme ça des signes. Donc voilà, donc cette pièce joue un peu comme ça sur un espèce de recyclage, et donc c'est une révolution, un voyage comme ça qui, et donc le voyage c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est comment, dans quel état d'esprit on part d'un point A et tout le changement qui s'opérera au retour à ce point A, quoi. Les rencontres et le bouleversement que va pouvoir faire cette révolution, quoi. Le changement de regard. Donc voilà, donc c'est une pièce qui joue avec tout ça.
Est-ce qu'il y a des pièces qu'on a oubliées?
Non, ouais, il y a plusieurs pièces, mais on va peut-être. Mais il y a plusieurs pièces. Il y a une série de petites tables qui sont pareilles, des amalgames d'aluminium, donc pareil, des principes d'emboîtement comme ça, qui font référence à tout un mouvement du design des années 80 qui s'appelle le groupe Memphis, qui sont des remakes de pièces que Michele De Lucchi a pu faire dans les années 80. Et qui est donc pareil, un objet qui revient énormément à la mode en ce moment, et par exemple dans les foires comme Miami, Basel, ou des foires comme ça, très chic, sont des objets qui à la base étaient des objets de design et qui étaient faits pour justement sortir le design du bon goût établi de la culture dominante et des bourgeois, et pour rencontrer justement d'autres publics et d'autres couches populaires de la société. Et ces objets se retrouvent maintenant comme une espèce de retour de manivelle, se retrouvent exposés comme des sculptures, comme des œuvres d'art, alors que leur projet initial était tout à l'opposé. Et donc moi c'est des objets que je refais à l'heure actuelle avec ce principe d'amalgame là, donc de combinaison, d'emboîtement très simple, comme des jeux de comme des châteaux de cartes, comme des jeux d'enfants, et dans lesquels je viens mettre une erreur grossière, quoi, une espèce de comme un nez de clown dessus. Et donc c'est une erreur qui les réenvoie dans leur projet d'origine, puisque vu que c'était des tables basses, je viens remettre des taches dessus, mais des taches qui sont faites comme tout le reste de l'objet dans le principe de marqueterie. Donc c'est des taches qui sont incluses dans la matière même de l'objet. Voilà, des taches de tasse à café ou des choses comme ça qui sont reposées dessus. Il y a une autre pièce aussi qui a une plaque d'émail par rapport à toute cette histoire de la modernité, des signes, donc de ce retour à un art comme ça très, très influencé par les formes géométriques et des formes simples. Ça m'intéressait de réutiliser un peu, c'est Olivier Babin, un ami, l'artiste, qui parle de ça, qui dit que l'art abstrait est devenu une sorte d'espéranto, c'est-à-dire que qui s'est complètement dilué dans la culture populaire, c'est-à-dire que tel tableau du Bauhaus c'est complètement dilué maintenant dans telle devanture de pharmacie ou telle devanture de tabac tous ces signes là comme ça de l'abstraction et de la géométrie se retrouvent maintenant dilués dans le packaging, dans plein de couches comme ça très populaire de la société. Et donc je fais un travail comme ça qui vient réutiliser ça, c'est-à-dire que par exemple là il y a un tableau qu'on pourrait appeler un tableau qui est en fin de compte une plaque émaillée comme un peu une plaque de rue là comme ça, de l'émail sur de l'acier qui reprend des motifs que je réemprunte à des jogging donc des espèces de traces du suprématisme qu'on pourrait trouver dans les jogging années 80, donc une espèce de tout un jeu comme ça post-constructiviste qui se retrouve dans les motifs des jogging de Landel ou des gens comme ça. Et donc ces objets que je reprends et que je remets sur comme si c'était sur une toile quoi. Avec d'autres, par exemple sur l'objet là que j'ai fait, il y a aussi d'autres signes qui sont des signes d'une campagne de pub de Ben & Jerry, qui est une marque de glace américaine, qui reprend aussi une structure comme ça, très influencée par la peinture de la modernité. Et que je viens faire sur un principe analogue à ce que faisait Molinage dans les années 20, quand il faisait des tableaux par téléphone, et qu'après, ces tableaux qui étaient, donc toutes les informations étaient données par téléphone et ces tableaux étaient redessinés, remis en matière quoi sur justement des plaques d'émail comme ça. Donc voilà, donc c'est une sorte de boucle que je viens reboucler c'est-à-dire à partir du moment où ces signes ont été jetés comme ça par téléphone, ils se sont déposés sur une matière, après ces matières se sont déposées sur d'autres matières, qui elles-mêmes se sont déposées sur d'autres matières, une espèce de logique qui m'intéresse toujours, un peu comme le scotch du capitaine Haddock dans le vol 747 pour Sydney, là cette espèce de sparadrap qu'il a sur le bout du nez, et puis en fin de compte toutes les personnes de l'avion se retrouvent avec le sparadrap, ils essaient de s'en débarrasser, puis c'est une autre personne qui le prend, et voilà, et puis en fin de compte le sparadrap lui revient sur le bout du nez à la fin, donc une espèce de logique comme ça, de boucle quoi.
Et on retrouve ton image de la boule de neige qui dont tu parlais tout à l'heure.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, du coup, les choses s'épaississent, un peu comme les marques de ce A d'anarchie, là, ça s'épaissit tellement que ça devient une chose et que ça embrasse tout ce qu'il y a autour. Ouais.
Pour l'ensemble de l'exposition, donc c'est un ensemble très dense. Et ça m'a rappelé une phrase de Mathieu Mercier dite au moment où tu avais fait ton exposition au Palais de Tokyo, donc il y a pas mal d'années déjà, et je me souviens qu'il avait dit que tu étais plus un artiste de l'exposition qu'un artiste de la pièce, et que tu étais très doué pour justement intuitivement habiter un espace. Qu'est-ce que tu en penses ?
En fin de compte, je ne sais pas si je suis doué ou pas. En tout cas, c'est très gentil de sa part de le dire. C'est très gentil de ta part de le répéter. Mais en fin de compte, oui, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'exposition. C'est comme je disais là. En fin de compte, c'est aussi de réfléchir par rapport au bâtiment, à ce qui est là, à ce qui est l'étendue donnée d'une exposition. C'est-à-dire que l'acoustique d'un lieu, l'éclairage d'un lieu, la position géographique d'un lieu, l'historique du lieu, tout ça... tout ça crée une exposition. Tout ça sont des. C'est pour ça que je parlais aussi de plein de degrés de lecture et que les pièces et que l'exposition était comme un millefeuille comme ça qui se composait de toutes ces histoires, tout ce qui était là. Et ça m'intéresse de travailler ça. En tout cas, mon projet justement de renvoyer la réalité du monde dans ses multiplicités et de renvoyer le maximum de prendre en considération le maximum d'éléments pour créer un objet, pour parler du monde tel qu'il est, justement passe par ça, quoi, passe par l'appréhension de tous les signes.
Voilà, ainsi s'achève cette rencontre avec Bruno Pénadeau. Je vous rappelle les dates de son exposition, du 3 février 2007 au 29 avril 2007, au FRAC des Pays de la Loire. Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur cette manifestation sur le site du FRAC, www.fracdespaysdelaloire.com.